Ami auditeur de là-bas, si j'y suis, s'il te reste un peu de temps de cerveau humain disponible, ne le dilapide pas. Viens chez nous en Ardèche, à Saint-André-de-Cruzières, entre Aubenas et Alès, samedi prochain, 9 octobre. C'est la première fête de notre jeune association altermondialiste de terroir, Alter Ego. Avec dès 14h, la cérémonie d'ouverture officielle en fanfare et son défilé de majorettes alternatives. Après, dans l'après-midi, forum des associations locales, spectacle de rue, débat interactif de proximité et concert à 21h avec Noz et The Fred. Alors pour tout renseignement, tu peux contacter Jean-Pierre Ternaud, journal télévisé... Non, là, je déconne. Hein. Allez, salut à tout le monde, salut à toi Daniel, bravo, et salut à toute ton équipe, à bientôt, ciao.
Bonjour Daniel. Bon, ben écoute, là tu touches le cœur. Mais là, le cœur, là, quand tu parles d'assurance santé et tout ça, aux États-Unis, le fait que la moitié de la population qui en a pas assez, le quart qui n'en a pas du tout, 600 € par mois pour, ou 100 US, à peu près la même chose, pour se payer des assurances. Moi, je connais des personnes qui ont eu 2 ou 3 crises cardiaques parce qu'ils se sont lâchés comme ingénieurs dans le boulot avec beaucoup de stress et là, ils sont même plus assurables. Parce que les sociétés d'assurance là-bas font la pluie puis le beau temps. Si t'es plus assurable, on s'en fout que tu crèves. On s'en fout que t'as des problèmes. Alors, il faut que tu sortes l'argent de ta poche. Ben, je sais pas si tu sais, mais la plupart des ingénieurs là-bas, puis là, je parle des ingénieurs, je parle pas des gens qui sont mal pris dans la société, ils peuvent plus se payer après un certain temps des vrais soins de santé. Alors, avis à tous les ingénieurs qui écoutent, les ingénieurs français ou même tout le monde en France, si vous tournez trop à droite, si vous vous laissez bercer par les tentations du système à 2 vitesses, un peu comme en Angleterre, ou même du système à l'américaine, parce que le grand patron vous dit « ça sera mieux », ça sera pas mieux. Et ça, moi, comme Canadien, je peux le dire. Il n'y a rien de mieux qu'un système de santé. Et c'est vrai que si on prenait même 10% des budgets militaires ou d'espionnage ou d'aller foutage de bordel dans les autres pays, si on prenait ça, on ferait santé universelle pour tout le monde.
Bonjour à tous. Tous les lundis, des Allemands se mobilisent par dizaines de milliers contre ces mesures dictées par un patronat qui étend sa mainmise sur toute l'Europe. Le mouvement se propage actuellement en France, à Avignon, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Paris, Rennes. Tous les lundis, à 18h30, le CROAC, collectif de résistance et d'offensive anticapitaliste, vous invite à vous réunir pour rencontrer et vous organiser contre les castes sociales et l'Europe du capital, place de la Comédie, à Montpellier. Le 24 octobre, il organisera une convergence des collectifs, toujours à Montpellier. Toutes les informations sont disponibles sur le site collectif.croac.free.fr. Salutations.
Et voilà, toujours imité, jamais égalé, c'est le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Aujourd'hui c'est le premier lundi du mois et donc le premier lundi du mois c'est notre rencontre avec le Monde Diplomatique, avec l'équipe du Monde Diplomatique. Vous savez que chaque mois depuis on ne sait même plus combien de siècles, nous nous retrouvons autour du numéro du mensuel du Monde Diplomatique. Parfois nous parlons de ce qu'il y a dedans, parfois nous parlons de ce qu'il n'y a pas dedans, d'autres choses. Aujourd'hui on va parler des élections américaines, évidemment avec Serge Halimi. On va parler de la Chine avec Roland Lève. On va parler du Honduras, eh oui. Oui, à côté de la Chine, enfin pas tout à fait à côté, il y a le Honduras et c'est Maurice Lemoine qui en parlera. Et puis on parlera des élections en Tunisie. Vous savez bien que bientôt, il y a des élections en Tunisie tout à fait démocratiques et tout à fait passionnantes. Voilà, ça va être ça qu'on va avoir. Et peut-être qu'on ira écouter un des plus grands animateurs de radio contemporain. Un des plus grands animateurs de radio contemporain, l'homme le plus écouté du monde, probablement. Nous l'avons non pas rencontré, mais nous l'avons écouté aux États-Unis. On aura peut-être quelques instants pour vous le faire entendre auparavant. D'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, c'est Katia à Paris. On est samedi matin, je viens d'écouter la dernière partie de l'émission Rue des Entrepreneurs sur la délocalisation. Alors là, il y avait un type dirigeant, genre chef de grande entreprise, qui expliquait qu'il produisait à Singapour, que quand c'était devenu trop cher à Singapour, ils avaient déménagé pour la Malaisie. Quand c'est devenu trop cher en Malaisie, ils ont déménagé pour la Thaïlande. Ils sont partis en Corée. Et alors, disait-il, bien entendu, dans le prix de revient des produits, ils ne pouvaient pas négliger l'abandon des unités de production et la destruction du matériel. Il n'a pas parlé de la main-d'œuvre. Il n'a pas dit un mot sur l'abandon des êtres humains. Alors combien de vies, combien de familles ont-ils brisé en partant? Ça, il s'en fout. C'est pas son problème. Son problème, c'est productivité à moindre coût pour de plus amples profits. Mais un jour, quand les pauvres vont se révolter dans le monde, et en France, ça va être son problème. On en voit les prémices. Parce qu'on peut pas indéfiniment narguer des gens de plus en plus, des pauvres de plus en plus pauvres, avec des richesses de plus en plus grandes. Un jour, les pauvres, quand ils n'ont plus rien à manger, quand ils n'ont plus rien à perdre, ils se révoltent. Et là, ça va péter. Voilà, Daniel, continue. À Maracaibo, il y a une rue qui monte et qui ne descend jamais. Au revoir.
Ça nous rajeunit pas, c'était Paramaribo, mais c'est gentil quand même. Le Monde Diplomatique, Serge Halimi, Roland Lev, Alain Grèche, Bernard Cassin et Maurice Lemoine.
Flight number 2, arriving from New York.
On est autour du numéro d'octobre du Monde Diplomatique et on va commencer par parler, de façon très originale, de George Bush. Très original parce qu'on a quelqu'un qui le soutient. Hein? Ici, au Monde Diplomatique, c'est Serge Halimi qui n'en dit pas que du mal.
Oui, on parle de cette élection parce que c'est l'une de celles qui risque d'être le plus intéressante, puisque il y a aussi les élections législatives aux États-Unis le 2 novembre, mais depuis quelques années, il y a un taux de renouvellement qui est presque nul, puisque au Congrès des États-Unis, la dernière fois, 98,5% des sortants avaient été réélus. Alors, ça c'est une notion qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Il y a une chambre presque permanente qui installe son avantage financier et qui installe, grâce à des redécoupages très habiles de circonscriptions, sa pérennité en place. Donc reste l'élection présidentielle et il y a ce paradoxe qu'on a déjà évoqué quelques fois qui tient au fait que des catégories sociales qui ont été les principales victimes des politiques républicaines et de celle de Bush en particulier, vote néanmoins républicain. Et dans le numéro du Monde Diplomatique donc qui sort ce mois-ci, j'ai réalisé une enquête en Virginie-Occidentale pour trouver une espèce d'explication, puisque lors de la dernière élection présidentielle, la Virginie-Occidentale, bastion démocrate depuis 60 ans, a, à la surprise générale, voté en faveur de l'actuel président George W. Bush et à une majorité qui d'ailleurs était relativement confortable puisque je crois qu'il a eu 6 points d'avance. Et alors, ce qu'on voit là-bas, c'est que les questions économiques qui devraient jouer contre lui ne jouent pas nécessairement contre les républicains. D'une part parce que dans l'électorat populaire, il y a cette idée que quelqu'un qui défend une position très unilatéraliste sur les questions internationales risque d'être plus protectionniste que quelqu'un qui fait sans cesse appel à la communauté internationale, comme John Kerry et comme les démocrates. Et quand vous êtes dans un État traditionnel qui dépend d'industries menacées, cette notion d'unilatéralisme est parfois associée avec le protectionnisme, et c'est une conception relativement populaire. Et par ailleurs, dans un État comme celui-là, les écologistes ne sont pas très populaires. Lorsque vous exploitez le charbon ou lorsque vous dépendez de l'exploitation du charbon, il y a toujours cette idée que les réglementations mises en place, souvent à la suite des pressions du travail militant des écologistes, risquent d'aboutir à ce que vous perdiez votre emploi quelques années plus tard. Donc même sur ces questions économiques, le travail des démocrates n'est pas toujours facile et s'y ajoute évidemment toute une panoplie de questions de sociétés diverses, dont notamment celle de la possession des armes à feu, très populaire en Virginie-Occidentale, où beaucoup de gens chassent. Et il y a le sentiment, tout à fait légitime d'ailleurs, que George Bush, lui, est favorable à l'absence totale de réglementation. Il l'a d'ailleurs prouvé, puisque maintenant, les armes de guerre redeviennent en vente légale depuis quelques semaines. Puis vous ajoutez à ça les questions de l'avortement, les questions du mariage homosexuel, les questions des valeurs traditionnelles, et il y a un électorat populaire qui est sensible au discours moraliste de Bush. Et autre chose qui me paraît très importante, c'est que ce qu'on reproche le plus à Bush en Europe, c'est-à-dire son absence de sophistication, son absence de vernis culturel, son absence de connaissance des cultures étrangères, est souvent là-bas perçu comme un atout, puisque ça le rapproche de groupes qui, eux, non plus, n'ont pas ce vernis culturel, n'ont pas cette connaissance des cultures étrangères, n'ont pas cette sensibilité aux modes européennes. Et lorsque vous entendez un discours de Bush, il reprend une technique qui avait déjà été une technique utilisée par Reagan, qui consiste à dire, non pas « je pense que », mais « vous et moi, nous pensons que ».« Vous et moi, nous pensons que ». Alors, et évidemment, ceux qui ne pensent pas comme vous et moi, ce sont les élites, souvent les élites démocrates, intellectuels, universitaires, journalistiques, qui vivent à Washington ou à New York ou sur les côtes et qui sont très sophistiqués, mais qui sont dans un autre monde, qui ne sont pas dans notre monde.
Qui mangent des sushis et qui roulent en Volvo.
Voilà. Et qui roulent en Volvo. Oui, vous et moi. Vous et moi, nous pensons que. Et j'ai trouvé qu'il y avait un moment où cette utilisation, cette technique était particulièrement remarquable. Quand George Bush attaquait ce qui est sa faiblesse principale, qui est le fait que naturellement ses politiques fiscales se sont traduites par une baisse très sensible des impôts payés par les plus riches. Et l'un des objectifs principaux de Kerry serait d'augmenter les impôts que paient les plus riches. Comment George Bush s'en tire-t-il quand il s'adresse à un public populaire ? On peut imaginer que la question va être difficile. Eh bien voilà ce qu'il fait. Il leur dit, vous voyez, John Kerry dit qu'il va augmenter les impôts des plus riches. Mais vous et moi, on sait ce que ça veut dire, hein ? Silence, les gens ricanent. Oui, on sait ce que ça veut dire. Les plus riches, ils paient jamais plus d'impôts. Parce que les plus riches, ils font appel au concours d'un avocat, d'un spécialiste en droit fiscal. Et qui se retrouve à payer l'addition ? Vous. Et là, il y a quand même une espèce de ruse, enfin, d'hypocrisie extraordinaire, puisque naturellement, ce sont les républicains qui ont le plus contribué à ce que les plus riches payent de moins en moins d'impôts et bénéficient de plus en plus de niches fiscales qu'ils utilisent naturellement à fond grâce au concours des avocats fiscalistes. En d'autres termes, en ciblant un certain nombre de professions qui sont associées au Parti démocrate, les artistes, les avocats, les intellectuels, les journalistes, George Bush, dont les politiques n'ont cessé de favoriser les plus riches, semble s'associer aux catégories les plus menacés, les plus pauvres, aux catégories ouvrières et aux petits employés. Et la vérité, c'est que dans un État comme la Virginie-Occidentale, mais aussi ailleurs, ça marche, puisque ce sont souvent dans les États les plus pauvres que la popularité des républicains et de ce discours-là, de ce discours populiste de droite, poujadiste, traditionnaliste sur les questions religieuses, qui insiste sur le droit de posséder des armes à feu, a le plus d'impact.
Yes.
I think George Bush is going to win.
Je pense vraiment qu'il va gagner.
Yes. And
that's what we want.
Et c'est ça qu'on veut, nous.
Like our faith in God.
La foi en Dieu.
And doesn't support abortion.
Il est contre l'avortement.
That's the main
thing. C'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit.
He's pro-gun and
il est pour le droit d'avoir des armes.
Yes, that's what we want.
On est en train de décrire un populisme de droite. Il y a pas mal de choses comparables avec ce qui s'est passé en France avec Le Pen. On pourrait peut-être voir du côté de Perón, il devait y avoir des choses comme ça dans l'Argentine de Perón. Je regarde Maurice Lemoine. Mais ce qu'on ignore beaucoup en France, c'est l'existence aux États-Unis d'un populisme de gauche. On rencontre des gens qui disent « moi je suis démocrate, mais enfin tendance populiste ». Et ça c'est une chose dont on n'entend jamais parler. Ici, je pense à Jim Hightower, par exemple, qui est un activiste très engagé, très drôle et très compétent, et qui se dit, moi je suis un démocrate, mais je suis aile gauche du Parti démocrate, et je suis un populiste.
Oui, mais la vérité, c'est que cette aile gauche populiste, elle ne s'exprime plus au niveau présidentiel au sein du Parti démocrate depuis la candidature de Walter Mondale en 1984, qui était une candidature essentiellement assise sur le soutien des syndicats. Là, on remarque que dans cette élection, les syndicats sont très atones. On en parle très peu. Ils sont assez peu mobilisés parce que depuis les années 80, depuis le milieu des années 80, le Parti démocrate a été pris en main par les milieux d'affaires et par les groupes intellectuels, les artistes, etc., qui sont d'ailleurs ceux qui le financent le plus largement à l'heure actuelle. Quand vous avez comme principal financier du Parti démocrate George Soros, vous comprenez que le Parti démocrate n'est pas le parti de l'homme ordinaire et des petits Américains qui se battent contre la mondialisation. Quand vous arrivez en 2004 avec à l'esprit et à la mémoire ce qu'ont été les politiques commerciales de l'administration Clinton pendant 8 ans, vous savez que ça a été des politiques commerciales beaucoup plus libérales, beaucoup moins protectionnistes que les politiques de l'administration Bush. Donc ce brouillage de messages qui favorise naturellement la démagogie républicaine a été très largement permis par des politiques démocrates qui, en ciblant systématiquement le centre, n'ont cessé de se rapprocher des milieux les plus privilégiés de la société américaine, à tel point, encore une fois, que quand vous allez dans les quartiers les plus riches de New York, dans les quartiers les plus riches de San Francisco, dans les quartiers les plus riches de Berkeley ou de Boston, vous avez une suprématie démocrate qui est totale, et je pense que dans ces quartiers-là, Kerry va obtenir 70% des voix. Alors que si vous allez au Nebraska, que chante Bruce Springsteen, si vous allez dans les coins les plus pauvres de Virginie occidentale, en Louisiane, en Arkansas, vous trouvez un électorat républicain assez important et de plus en plus important, me semble-t-il, parce que maintenant le discours populiste républicain n'est plus d'abord un discours raciste ou un discours xénophobe et qu'il utilise beaucoup plus qu'autrefois le ressentiment à l'encontre des intellectuels qui se moquent de nous et qui prétendent nous donner des leçons en permanence. Ce thème de « ils ne cessent de se moquer de nous traiter pour des imbéciles, pour des ploucs, et on va justement leur montrer qui on est », est un thème sur lequel les républicains jouent à fond.
Alors, on parle de deux Amériques, hein, une bleue, une rouge, en ce moment, et ça va durer comme ça au moins jusqu'aux élections, mais cette opposition, ce bipolarisme, ne représente pas les États-Unis, ne représente pas la société américaine. Vous le dites à travers, en évoquant cette gauche qui va voter probablement Kerry, mais en traînant les pieds, qui va surtout voter contre Bush, mais il y a toute une partie de peut-être pas de l'électorat, mais de la sensibilité et de la société américaine qui n'est pas représentée dans cet antagonisme.
À ceci près que je crois que dans cette élection, tout ce qui est gauche aux États-Unis va massivement voter pour Kerry, que le soutien qu'obtenait il y a 4 ans un candidat comme Ralph Nader risque d'être très inférieur à ce qu'il était en 2000, précisément parce que George Bush, et c'est au moins son mérite, a polarisé les choses. Il a fait comprendre aux Américains qui en doutaient que l'État, ça peut faire beaucoup de choses. L'État, ça peut faire la guerre, ça peut avoir des politiques fiscales brutalement régressives. Et en d'autres termes, il a remobilisé une opinion, soit derrière lui, soit contre lui, ce qui peut laisser penser que le taux de participation sera sensiblement supérieur à ce qu'il était la fois dernière. Je précise d'ailleurs que le taux de participation aux États-Unis est constamment sous-évalué quand on en parle en Europe. Quand on dit que 50% des Américains votent, c'est 50% des Américains en âge de voter, mais c'est près de 65% des électeurs inscrits. Donc un taux qui n'est pas si différent des taux européens. Mais là, je crois que du fait de ces politiques, qui ont été vraiment des politiques brutalement de droite, presque arrogantes, systématiques, outrancièrement conservatrices, George Bush a dynamisé le débat politique aux États-Unis et que tout ce qui s'oppose à George Bush, et c'est effectivement une masse assez considérable, fera bloc peu ou prou derrière John Kerry. Alors même que sur une question aussi fondamentale que la question de la guerre en Irak, les différences entre les deux ne sont pas visibles à l'œil nu. Il faut vraiment travailler sur les documents et puis suivre Kerry de semaine en semaine parce que ses positions ont tendance à changer.
Et quand Bush parle de l'étranger, les étrangers qui ne doivent pas nous donner des conseils, c'est souvent l'ONU, parce que vous parlez de la guerre en Irak, ça fait partie des étrangers, l'ONU.
C'est l'ONU, c'est l'Europe, c'est la France. Ce sont tous ces pays qui n'ont cessé d'être complaisants à l'égard du terrorisme. On se souvient que lors de la convention républicaine, il y a un orateur, Rudolph Giuliani, l'ancien maire de New York, qui insistait sur le fait que l'Allemagne avait libéré ce qu'il appelait les terroristes palestiniens au moment des attentats de Munich, que l'Italie avait libéré ce qu'il appelait les terroristes palestiniens au moment de la prise d'otage de la Chile Loro. Et il disait, vous voyez, ces Européens qui prétendent nous donner des leçons, ils sont toujours dans la logique, en quelque sorte, de Chamberlain, celle de l'apaisement, alors que Bush, lui, c'est Churchill. Et la métaphore Bush-Churchill, pour bizarre et improbable qu'elle soit, est une métaphore que ressassent en permanence les radios conservatrices, les télévisions conservatrices, dont Fox News, dont je rappelle que la puissance de cette chaîne ne cesse de s'étendre, puisqu'il y a 4 ans, 400 000 personnes regardaient Fox News pour la Convention républicaine, et cette année, il y en a eu 5 millions qui ont regardé Fox News pour la Convention républicaine. Fox News est donc passé en tête des grands networks, et c'est vraiment une chaîne qui fonctionne comme l'appareil idéologique du Parti républicain.
Alors voilà, ce morceau va tourner dans tous les États-Unis. C'est Bruce Gaines Bush, Bruce Springsteen, qui s'est engagé, comme vous le savez, dans une campagne contre Bush, dans une grande campagne avec d'autres artistes, d'autres intellectuels, des intellectuels, tout un monde qui se mobilise contre Bush dans un mouvement qui s'appelle Vote for Change. Et c'est vrai que Springsteen est très très populaire aux États-Unis. Mais l'est-il autant que Rush Limbaugh? Rush Limbaugh s'exprime chaque jour à travers les États-Unis sur 660 stations de radio. De midi à 3 heures, il y a entre 20 et 30 millions d'Américains, d'auditeurs, qui écoutent Rush Limbaugh. Camion, voiture, sur la route, partout, à la maison. On écoute le Rush Limbaugh Show. Et Rush Limbaugh est le type le plus réactionnaire, le plus conservateur qu'on puisse imaginer. C'est une très grande star aux États-Unis et il soutient Bush à fond les ballons. Il fait chaque jour son talk show. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ce mot talk show que nous avons repris ? Eh bien, c'est que la parole est mise en forme, on joue. Ces gens ont la tradition des prédicateurs américains, des grands prêcheurs américains, et savent rythmer leurs interventions de manière très jouée, très spectaculaire. Voilà pourquoi on appelle un talk show. Chaque jour, de midi à 3 heures, Rush Limbaugh prend des auditeurs ou des auditrices en ligne et fait son Rush Limbaugh Show. WRBA.
Here's Mabel in Philadelphia. Hi, Mabel. Welcome to the EIB network.
Hi, Rush. How you doing?
I'm fine. Thank you.
Good. First time caller, long time listener. First of all, I want to thank you on being out there every day in the trenches, illustrating people on the truth and how things should really be looked at.
Thank you.
One of the things that is really scary for me, I'm a mother of small children. So a Kerry presidency with a flip-flop attitude, semi-chameleon, on the war on terror is very scary.
C'est une mère de famille qui téléphone à Rush Limbaugh en disant merci beaucoup d'être là toujours, chaque jour, dans les tranchées pour faire parler le langage de la vérité. Et je voulais vous écrire parce que je suis très inquiète comme mère de famille, de jeunes petits-enfants. Et avec Kerry, qui est ce candidat flip-flop, c'est-à-dire qui change de bord tout le temps, j'ai très très peur avec la guerre contre le terrorisme.
No, what he's relying on is that you'll be blown away and impressed with his intelligence,
and his ability because he's smarter than
everybody. Et à quoi Rush Limbaugh lui répond, mais simplement toute sa campagne, c'est qu'il essaye de vous époustoufler, de vous en mettre plein la vue avec son intelligence et sa culture, et il veut vous faire croire qu'il est plus intelligent que vous. Laissez-moi vous dire, mon petit garçon de 8 ans est plus intelligent que lui.
I'm beginning to think that we're looking here at a case of sabotage. Because some of this stuff is just so clichéd. Even for liberals, it's so cliché. When you hear these two ads, and I've talked to
you. Parle des campagnes, des publicités de Kerry en disant que c'est du sabotage, en faisant de tels clichés, s'ils sont vraiment en train de saborder leur propre campagne à ce pauvre Kerry qui passe d'un côté et de l'autre et qui essaye maintenant de s'opposer à la guerre.
No, I'm not even going to analyze this. I'm just telling you I saw what I thought I saw, which makes me feel good about my powers of observation. That's it. We'll be back in just a second.
News Radio 1140, WRVA. It's difficult to make good decisions when it comes to your money. There's so much information out there that sometimes, for fear of making the wrong choices, you make no decision at all. Take the confusion out of your finances and stack the odds in your favor. Call the...
Voilà, 3 minutes de Rush Limbaugh, 3 minutes de pub. C'est comme ça tous les jours. Et on voit que Rush Limbaugh développe sans cesse, répète les mêmes arguments. Là, c'est la campagne pour dire que Kerry est trop intelligent, est trop malin, est trop brillant, etc. C'est exactement ce que Serge Halimi est en train de nous dire. Et c'est ce populisme de conservateur qui explique le succès de Bush, parce qu'il y a quand même une question qui se pose pour nous autres Français de ce côté-ci de l'Atlantique. Comment peuvent-ils voter pour quelqu'un comme Bush? La question que se pose aussi pas mal d'Américains, si vous posez la question à San Francisco ou à New York, c'est exactement la même. Et ben voilà une partie de la réponse. Rush Limbaugh, 30 millions d'auditeurs par jour à travers tout le continent américain. On continue avec l'équipe du monde diplomatique de ce mois d'octobre. La Chine, un gros dossier hein, dans le numéro d'octobre du Monde diplomatique sur la Chine. Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé de la Chine. J'ai l'impression que vous n'en parlez pas beaucoup, pas souvent. C'est souvent l'Amérique latine, souvent les États-Unis, l'Europe, mais la Chine, Alain Gray.
Je pense pas tout à fait vrai, puisque il y a aussi, on a fait la liste de nos précédents articles, et ça met en lumière quelque chose, c'est que le fait d'en parler relativement régulièrement sur une ou deux pages. Ne crée pas la même impression que quand il y a un dossier. Là, on a décidé de faire un dossier parce que l'émergence de la Chine comme puissance mondiale, à la fois régionale et mondiale, nous semble un des éléments importants pour comprendre les relations internationales. Et donc, nous avons voulu présenter un dossier qui est centré surtout autour du nationalisme et du bilan du régime communiste, et de savoir pourquoi ce régime finalement a tenu, pourquoi il est arrivé d'une certaine manière à se réformer, pourquoi il est arrivé à impulser le développement qu'on connaît. Avec quand même une perspective historique, puisqu'il y a un article notamment de Philippe Golub, accompagné par toute une série de cartes, qui montre que, contrairement à ce qu'on pense, la place de l'Asie a été, au cours de l'histoire, très importante, et que jusqu'au XVIIIe siècle, c'était un centre manufacturier plus important que l'Europe. Et que donc, en fait, cette idée que l'Europe a dominé le monde depuis le XVe siècle ou XVIe siècle ou depuis la Renaissance est fausse. Et que, en fait, la Chine, jusqu'aux guerres de l'opium, jusqu'aux interventions françaises, britanniques contre l'Empire chinois, a été vraiment un des centres du monde. Et je crois que c'est important de le rappeler au moment où, justement, il y a cette réémergence de la Chine sur la scène régionale et internationale.
Alors, Roland Lève, vous signez un des papiers de ce dossier dans le monde diplomatique. Et vous êtes à la recherche des ressorts cachés du dynamisme chinois. Et vous nous apprenez, enfin, vous nous rappelez
que la Chine, c'est un pays communiste avec un parti communiste qui est au pouvoir toujours.
Donc je dis exactement le contraire. Je pense que c'est justement pas un pays communiste et que les ressorts cachés, il faut aller les chercher là où ils sont, justement là où c'est moins évident. Enfin, c'est devenu évident aujourd'hui. Je pense que plus personne ne conteste l'importance du nationalisme. Mais ça a fait longtemps l'objet d'un débat. Et surtout, on n'a pas vu à quel point c'était essentiel depuis longtemps, y compris avant 1949, c'est-à-dire avant l'arrivée au pouvoir des communistes. Et que ça jouait de façon décisive sur les options et les choix que les dix communistes, c'est-à-dire en réalité les nationalistes révolutionnaires qui étaient les communistes chinois, prenaient et les options qu'ils voulaient prendre pour l'avenir, c'est-à-dire pour la transformation du pays. Alors ce qui est tout à fait caractéristique, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas comprendre, et c'est ça la question la plus délicate, le passage du maoïsme et de tout ce qu'on a dit et de ce qu'on croit savoir sur le maoïsme, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Mao et les quelques années qui suivent, c'est-à-dire jusque fin des années 70, aux 25 années qui ont suivi, si on ne comprend pas justement tous ces ressorts, et ces dynamiques du nationalisme, y compris sur l'élite dite communiste, c'est-à-dire faussement communiste, mais en réalité nationaliste moderne, moderniste, visant à une transformation du pays. Et je reviens sur ce qu'on vient de dire juste avant. Ce n'est pas seulement que la Chine comptait comme un des pays les plus importants du monde. Il y a une statistique qui est beaucoup plus frappante que ça. Bien sûr, c'est difficile de faire les calculs, mais on estime qu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire ce grand siècle chinois, eh bien, le niveau de vie par habitant de la Chine devait être parmi les plus élevés du monde et probablement presque ou proche ou peut-être même égal à celui de l'Angleterre. Or, au début des années 50, on le ramenait à un 30e ou un 50e de pays comme les États-Unis ou des pays développés. Autrement dit, ça montre le degré de recul, pour ne pas dire de déchéance et d'effondrement du pays. Et ça donne aussi l'idée de ce qu'était pour les révolutionnaires communistes, enfin avec des guillemets, avec beaucoup de guillemets, les objectifs qu'ils se donnaient, c'est-à-dire de faire rebondir la Chine à son niveau qui était celui, enfin au niveau mondial, au niveau où ils pouvaient véritablement affronter les problèmes mondiaux et être sur la scène mondiale, puisque comme on sait, le pays a été pas très loin au 19e et surtout au début du 20e siècle de disparaître, d'être anéanti et d'être anéanti y compris dans sa continuité de civilisation. Or, c'était quand même une continuité sur 2000 ans. Mais ce qui est aussi important, c'est de comprendre que ce nationalisme, ils ont été l'importés d'Europe et de l'Occident en général. Ce n'est pas, comme on pense aujourd'hui, le patriotisme ou le nationalisme purement chinois, mais c'est quelque chose qui supposait une capacité et des nouvelles formes de mobilisation de la nation, ce qui n'était pas du tout dans la tradition chinoise, ni d'ailleurs dans aucune tradition en dehors de l'Europe. Et l'idée d'aller mobiliser la nation, et bien pour ça, il fallait toute une nouvelle idée, c'est l'idée du nationalisme moderne, et en particulier du nationalisme révolutionnaire porté par certains des formes du communisme. C'est aussi caractéristique pour le Vietnam que pour la Chine, et sans doute pour d'autres formes de régime dit communiste, d'aller mobiliser la nation, et d'aller aussi se chercher un modèle de développement qui permettait de rebondir sur la scène mondiale, de revenir à un niveau de puissance. Et au fond, ce qu'on discute aujourd'hui, c'est de savoir si la Chine est en train de réussir, si elle a déjà réussi, ou si elle réussira dans les prochaines décennies.
Réussir à devenir la première puissance mondiale.
Je ne sais pas s'ils ont vraiment l'idée de la première puissance mondiale, parce qu'ils en sont quand même encore loin, surtout si on regarde par habitant, et le niveau de vie réel en moyenne par habitant, et surtout celui des centaines de millions, des 8 ou 900 millions d'euros, on est très loin du compte, mais à l'échelle globale, c'est l'idée quand même de redevenir une puissance, non seulement au niveau régional, ça ils le sont, mais de redevenir une puissance mondiale qui compte, avec laquelle il faut pouvoir négocier, et ce qui veut dire se retrouver, et c'est un des grands débats aujourd'hui, une des grandes anxiétés de certains et un des grands espoirs de d'autres, de se retrouver face à face avec les États-Unis, l'autre super puissance mondiale.
Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque, dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque, dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush.
no companheiro Bush. Quem arranja um alicate que conserte aquela fase ou corrija aquele fuso? Talvez um parafuso que tá faltando nele melhore aquele abuso. Um chip que desligue aquele terremoto, aquela toque é luz. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque, dizem Bush. Eu desconfio que foi o Bush. 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 Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque, dizem Bush. Eu desconfio que foi o Bush. 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 Onde haverá recurso para dar um bom repulso lá no companheiro Bush? Quem arranja um alicate que acerte aquela fase ou corrija aquele fuso? Talvez um parafuso que tá faltando nele melhore aquele abuso. Um chip que desligue aquele terremoto, aquela qualquer luz. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque, dizem Bush. Eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush. Foi o Bush. Foi o Bush.
Vamos lá.
Foi o Bush. 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 Foi o Bush.
Pra acabar, vamos lá.
Foi o Bush. Foi o Bush. Foi o Bush.
Ok, on vient de parler d'un très très grand pays, la Chine. On va parler d'un tout petit pays, avec Maurice Lemoine. C'est le Honduras.
Pourquoi parler de Honduras? C'est vrai que c'est un tout petit pays d'Amérique centrale. Avec l'Amérique centrale, on l'a bien oublié depuis la fin des conflits armés. Je dirais tout simplement qu'on parle de Honduras parce que personne n'en parle. Alors c'est pas une condition suffisante, mais aussi parce que...
Si vous parliez des pays dont personne ne parle...
Non, c'est vrai, mais après tout, ça serait peut-être pas une mauvaise politique. Et puis surtout parce que...
C'est un bon numéro spécial, hein, du diplôme, ça. Les pays dont personne ne parle. Ça fera un très gros numéro. Ouais.
Non, tout simplement parce que c'est un pays dans lequel, si on prend ces 5 dernières années, on a assassiné 2125 jeunes de moins de 23 ans. Alors dit comme ça, ça dit pas grand-chose. Disons simplement que si on ramenait ça à l'échelle de la France, ça voudrait dire qu'on assassine 4000 gamins et adolescents tous les ans en France. Et j'imagine que ça ferait quand même un certain scandale. Alors il se trouve que Honduras, ça passe totalement inaperçu. C'est un pays de 6 600 000 habitants. Certains jours, donc, on assassine 2 gamins, 2 adolescents. D'une manière générale, les autorités honduriennes attribuent ça au règlement de compte entre maras. Vous savez que les maras, c'est les bandes de jeunes qui sévissent en Amérique centrale en particulier, au Salvador, Guatemala ou Honduras. Et c'est la thèse du ministre de l'Intérieur, Oscar Alvarez. Et c'est aussi une occasion pour nous. Alors je précise d'ailleurs que cet article a été écrit par une jeune femme, une jeune journaliste, Raphaël Baille, que je suis en train de me faire un peu son porte-parole. Elle a enquêté sur le terrain. On retrouve en fait un petit univers qu'on connaît bien, puisque le ministre de l'Intérieur actuel, qui en fait laisse se perpétuer ce massacre en toute impunité, n'est autre que le neveu d'un personnage qu'on a bien connu dans les années 80, qui était le général Gustavo Alvarez, qui était jusqu'en 1984 l'homme fort du pays, qui était le dirigeant occulte du bataillon 316 qui a exécuté 200 Honduriens qui était soupçonné d'être un peu trop de gauche, hein, en gros. À l'époque où, souvenez-vous, l'ambassadeur à Tegucigalpa, qu'on appelait le proconsul, s'appelait John Dimitri Negroponte, qui est l'actuel ambassadeur des États-Unis en Irak. Le monde est très petit, en fait. Hein. C'est pour ça que même les petits pays sont intéressants. Alors, bon, on prétend que c'est des règlements de compte. En fait, non, d'après une ONG qui travaille beaucoup sur le terrain, qui s'appelle Casa Alianza, seuls 20%, en gros, de ces exécutions peuvent être attribuées à des règlements de compte entre maras. Et en fait, quand on enquête, comme l'a fait Raphaël Bay, et je ne vais pas déflorer le sujet, on se rend compte que sont impliqués dans ces assassinats les forces de sécurité, la police, les entreprises de sécurité privée et des comités de citoyens de sécurité. On a donc en fait on aura une absence totale de volonté politique pour mettre un terme à ce nettoyage social. La seule mesure qui a été prise par le pouvoir, c'est évidemment de durcir la législation, de faire passer une loi contre les pandillas en 2003. Moyennant quoi, on a rempli
les pandillas.
Les pandillas, c'est comme les maras, c'est les bandes de jeunes, les bandes d'adolescents. Donc on a fait passer une loi qui permet de remplir des prisons. Et malheureusement, dans les prisons, le phénomène se poursuit, puisque en 2003, on a eu 86 jeunes qui sont morts dans la prison de La Ceiba. Il y a actuellement 50 policiers en examen, enfin, pas en examen, c'est pas la formule là-bas, mais qui sont inculpés parce qu'en fait, ils ont sciemment organisé un affrontement dans la prison entre les bandes pour ensuite pouvoir les exécuter. Et puis, en mai dernier, on a eu à San Pedro Sula, dans une prison qui peut tenir 800 personnes, dans laquelle il y avait 2200 prisonniers, un incendie qui a éclaté, les autorités et les gardiens ont refusé d'ouvrir les portes. Ça s'est traduit par 104 morts qui sont passés totalement inaperçus. Et je termine juste sur une petite note
de gaieté,
humoristique. Le Honduras, donc ce pays où vous voyez, on respecte les droits de l'homme d'une manière absolument spectaculaire, a été choisi par les États-Unis au début de cette année pour déposer devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU une demande de condamnation de Cuba pour violation des droits de l'homme.
Soy una mujer que canta para mitigar las penas de las horas vividas y perdidas. Me queda solo esto, decirle a la noche todo lo que yo siento, cantando canciones, despierto ilusiones dormidas en mí. Muchas me vieron caminando a solas bajo las luces desiertas y azules de mi soledad. Que fue mi vida desde siempre, solo trabajo y miseria. Por eso cantaba las estrellas y quizás me oyó hasta Dios. Soy una mujer que canto para mitigar las penas. No era nada ni nadie, y ahora dicen que soy una estrella, que me convertí en una de ellas para brillar en la eternidad.
On va finir par un petit jeu. C'est bientôt les élections en Tunisie. Et le jeu, c'est de savoir entre 99 et 100, quel sera le taux d'élection pour le président Ben Ali. Dont Taoufik Ben Brik a dit que pour un président aussi important, il faudrait un pays aussi grand que l'Australie.
Écoutez, d'abord, il faut rappeler que le président va être réélu pour la quatrième fois, ce qui était contraire à la Constitution, et que donc, comme la Constitution n'était pas bonne, on a changé la Constitution pour lui permettre de se représenter, et pour ne pas créer trop de problèmes par la suite, il a le droit de se représenter ad vitam aeternam, c'est-à-dire, en fait, c'est une présidence à vie qu'on a en Tunisie. L'élection aura lieu le 24 octobre, il y aura sans doute un ou deux candidats des partis officiels de l'opposition qui tiennent des discours qui sont parfois très proches de ceux du président de la République. L'opposition un peu plus radicale n'a pas voix de cité. Elle essaye de s'organiser de manière très courageuse, mais elle a beaucoup de mal à se faire entendre. Et une des raisons pour lesquelles elle a du mal à se faire entendre, c'est que il y a une complaisance à l'égard du régime tunisien, de la communauté internationale, qui est tout à fait étonnante par rapport à ce qui se passe.
Y compris française.
Y compris française, bien sûr. Il y a eu des visites de... Il y a eu la visite du président Chirac en décembre, sans que la question des droits de l'homme soit abordée. On parle d'une visite du président tunisien en France. Il y a, par exemple, en 2005, il va y avoir un sommet sur la société de l'information qui va avoir lieu à Tunis. Quand on sait prononcer le mot Tunisie écrire le mot Tunisie dans un journal aboutit en général à l'interdiction de ce journal à l'importation. On peut penser d'ailleurs que ce numéro d'octobre 2004 du Monde diplomatique ne sera pas autorisé, c'est avec la Corée du Nord, je crois, le pays qui contrôle le plus Internet. Donc il y a eu des jeunes internautes qui ont été condamnés à des peines de 10 ou 15 ans de prison parce que ils ont accès à des... Il surfait sur la toile et il consultait des sites qui n'étaient pas corrects. Enfin, bon, que ce pays puisse être choisi pour être le sommet de la société de l'information, c'est, je veux dire, on est dans Orwell. D'ailleurs, on l'est tout à fait, puisque il y a eu déjà des réunions de ce type qui se sont tenues sur la liberté de la presse en Tunisie. Alors, ce que les autorités tunisiennes font, c'est qu'elles invitent les délégués. Ils sont dans un certain nombre d'hôtels. Dans ces hôtels, on trouve tous les journaux qui sont interdits ailleurs. Et alors, évidemment, quand quelqu'un pose la question, on dit, mais attendez, regardez, vous trouvez tout ce que vous voulez. Alors, on peut imaginer que dans le futur sommet de la société de l'information, il y aura une bulle réservée aux délégués pour leur montrer qu'on peut avoir accès à Internet, à tous les médias, etc. Mais qu'évidemment, ça ne changera pas la réalité pour le peuple tunisien.
Bernard Cassin.
Oui, je voulais signaler à vos auditeurs que...
Une page de publicité.
Une page de pub, oui. Que l'Observatoire français des médias, qui s'intéresse donc à tous les médias, écrit audiovisuel, va organiser sa séance de rentrée le 20 octobre. C'est un mercredi à 19h à la Bourse du Travail, et sur le thème de la concentration des médias, sur le thème de la critique des médias et sur le droit à l'information et le droit d'informer, et avec la participation de syndicalistes de syndicalistes de presse, de la CGT, de SNJ-CGT, SNJ, et évidemment de quelques autres personnalités, notamment Armand Matelard et notre directeur Ignacio Ramonet. Je pense que ça vaudra le déplacement.
Ici, Londres. Londres.
Les pubs staliniennes, tu sais. Les pubs staliniennes de Bernard Cassel. Je pense que ce sera intéressant. Les pubs granitiques.
Mais il savait pas, tu vois.
Voilà, merci à tous, merci à l'équipe du Monde Diplomatique, Bernard Cassin, Serge Limi, Alain Grèche, Maurice Lemoine et Roland Lève. Plus d'informations à votre disposition sur le site de là-bas si j'y suis, en allant sur franceinter.com. Technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Pascal Baldassari, Yann Chouquet, Pascal Le Pascariello et Christophe Imbert. C'est l'équipe de là-bas si j'y suis. Le numéro du répondeur, faut-il vous le rappeler, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Le mail,
daniel.mermet@radiofrance.com et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale, il faut bien le dire. Il va être 17h55 sur France Inter, c'est donc le moment de la réclame.